Universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
De la Cometterie à ce micro dans 5 minutes, le magazine de l'économie met tout de suite le bulletin d'information. L'Organisation mondiale de la santé a demandé ce mardi un renforcement des mesures de lutte contre la fièvre à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Si rien n'est fait, avertit l'OMS, la maladie pourrait toucher 20 000 personnes d'ici à novembre, trois fois plus qu'à ce jour. Jacques Aristide.
L'épidémie a déjà tué 2811 personnes des 5864 cas rapportés en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone, d'après le dernier bilan établi hier.
One of the key messages that we want to get across is that we are now in the third explosive phase of growth.
Nous sommes dans la troisième vague d'accroissement de l'épidémie, affirme Christophe Adai de l'OMS, et de prévenir que si rien ne vient freiner sa progression, ce ne seront plus des centaines de cas par semaine, mais des milliers qui surviendront. Pour lui, les moyens pour l'arrêter sont connus, mesures de contrôle et de prévention, protection précoce des malades et des soignants, et détection des personnes en contact avec quelqu'un d'infecté. Mais d'autres chiffres encore plus alarmants, dans un rapport publié aujourd'hui, les centres américains de contrôle et de prévention des maladies, qui ont analysé les données du Liberia et de la Sierra Leone, affirment que le nombre de cas d'Ebola pourrait atteindre jusqu'à 1,4 million d'ici au 20 janvier prochain. Sur le plan de la recherche, l'ONG Wellcome Trust a annoncé ce mardi un don de 5,2 millions de dollars pour les essais des médicaments expérimentaux contre Ebola en Afrique de l'Ouest, de temps qu'il n'y a pas encore de vaccin homologué.
Lors de discussions à New York avec la présidente centrafricaine Catherine Samba-Panza, le secrétaire général de l'ONU a souligné l'importance cruciale d'un processus politique inclusif dirigé par les Centrafricains eux-mêmes. Ban Ki-moon a souligné lundi qu'une entente globale formelle était nécessaire pour entreprendre des réformes essentielles de gouvernance, y compris en ce qui concerne dans le secteur de la sécurité et le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants. Encourageant la poursuite des efforts dans la campagne de sensibilisation sur la prévention de la violence sexuelle liée au conflit en Centrafrique, M. Ban a appelé la population, la présidente de transition, à appuyer pleinement la mise en œuvre des mesures d'urgence prescrites par la résolution 2149 du Conseil de sécurité. Selon l'ONG américaine de protection de la faune Wildlife Conservation Society, le braconnage des éléphants en Mozambique prend une ampleur sans précédent, indique l'AFP. Dans l'extrême nord du pays, 22 éléphants ont été tués en 2 semaines, début septembre, dans le parc national de Niassa, a indiqué à Maputo Carlos Pereira, un membre de l'organisation new-yorkaise.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le président Barack Obama a annoncé que les États-Unis et leurs partenaires de la coalition ont lancé des raids aériens contre les militants islamistes en Syrie dans un effort pour limiter les sanctuaires des terroristes. Lionel Gaïma.
Parlant à la Maison-Blanche avant son départ pour New York et ses réunions à l'ONU, M. Obama a expliqué que ces frappes visaient des membres endurcis d'Al-Qaïda, ceux du groupe Khorasan qui planifiait une attaque imminente contre les États-Unis. Il doit être clair que pour quiconque complote contre l'Amérique et tente de s'en prendre à des Américains, que nous ne tolérerons pas des sanctuaires pour terroristes qui menacent notre peuple. Ces frappes incluaient d'autres cibles. Bahreïn, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Jordanie et les Émirats Arabes Unis ont appuyé cette campagne aérienne qui a endommagé ou détruit des camps d'entraînement des militants de l'État islamique, ainsi que le quartier général et un centre financier du groupe. Pour M. Obama, ces 5 nations arabes sont des alliés dans la lutte contre ces militants.
La strength of this coalition makes it clear.
La force de cette coalition démontre clairement qu'il ne s'agit pas simplement du combat de l'Amérique, a ajouté M. Obama. Selon un groupe d'observateurs, ces dernières frappes aériennes ont tué 120 militants islamiques en Syrie.
Dans l'est de l'Ukraine, les combattants séparatistes ont commencé le retrait de leur artillerie lourde dans la ligne de front telle que stipulée dans le plan de paix, selon le premier ministre de la République autoproclamée de Donetsk, Alexander Zarachenko. Ce retrait est en réponse à une action similaire des forces ukrainiennes. Le plan de paix prévoit la création d'une zone tampon de 30 km entre les belligérants. La semaine dernière, le Parlement ukrainien a adopté une loi accordant une large autonomie aux régions séparatistes de Donetsk et Lugansk. Fin de ce bulletin d'information. Ne quittez pas. Camille Grosdidier vous retrouve pour le magazine de l'économie.
Washington, la voix de l'Amérique, Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres tout d'abord. Le ministre centrafricain des mines, Joseph Akbo, demande l'allègement, voire la levée de l'embargo sur l'exportation du diamant centrafricain.
Disons aujourd'hui que loin de nuire à ceux qui sont venus perturber l'exportation de nos diamants, cet embargo a vraiment eu des effets très, très, très pervers.
On suivra un reportage de Bagassi Koura, envoyé spécial de la Voix de l'Amérique en Centrafrique. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara évoque la santé économique du pays.
Cette croissance continuera d'être forte parce que les investissements sont à un niveau élevé par rapport au produit intérieur brut, parce que ces investissements sont financés non seulement par l'extérieur, mais par l'épargne intérieure.
Tous les détails avec Germaine Dri. Et lancement par la start-up Faso Pro du Toumou Delis, son premier produit à base de chenilles de karité. Cri d'alarme de la FAO. Dans un nouveau rapport, l'Agence des Nations Unies sur l'alimentation s'inquiète de l'impact de l'épidémie de fièvre à virus Ebola sur les économies ouest-africaines. Notamment, la production agricole a fortement baissé dans les zones les plus affectées par le virus, dit-elle. En cela, la FAO se fait l'écho du groupe de la Banque mondiale qui, la semaine dernière, a déjà averti que si le virus poursuit sa propagation foudroyante dans les trois pays les plus durement touchés, à savoir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone, son impact économique pourrait s'en trouver quasiment décuplé, avec des conséquences potentiellement catastrophiques. On écoute Alexis Bonte, représentant de la FAO par intérim au Libéria. Il fait part de la situation sur le terrain.
Donc, il y a d'abord une première conséquence qui est liée à la rupture des marchés. Donc, comme je vous disais, il n'y a plus de marché pendant tout le mois d'août. Également, les transports ont été extrêmement limités. Et donc, sans marché, il n'y a plus de cash, il n'y a plus d'argent qui circule. Donc, les petites économies que les ménages avaient, tout ça, ça a été dépensé pour faire face aux besoins alimentaires, par exemple, aux besoins de santé, etc. Également, il faut savoir que les prix des denrées ont été, pour certains, multipliés par 2. Pour certains types de poissons, ça a été multiplié par 10. Donc, il y a vraiment eu un problème d'accessibilité au cash. Un exemple, ce sont les groupes de femmes qui ont développé des systèmes de crédit épargne communautaire. Donc, normalement, elles se font des crédits, elles remboursent ces petits crédits. Et là, à cause du manque de cash, elles n'ont plus été en mesure de rembourser. Donc, ces petits épargnes qu'elles avaient développées au sein de leur groupe sont complètement détruites. Donc, elles n'ont ni cash au sein de la famille, ni cash au sein du groupement. Donc ça va créer un problème assez important pour l'accessibilité aux aliments qui ont vu leur prix augmenter. Maintenant, ça va également se combiner avec la diminution des productions et donc une nouvelle augmentation, un nouveau risque d'augmentation des prix.
Alexis Bonte, représentant de la FAO par intérim au Libéria, dont les propos étaient recueillis par Muriel Sarr de la FAO. Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Selon le groupe de la Banque mondiale, la croissance économique en Guinée va être amputée de moitié, passant de 4,5% à 2,4% à cause de l'épidémie de virus à Ebola. La Guinée, qui compte déjà parmi les pays les plus pauvres au monde, assiste à l'exode de ses travailleurs agricoles qui fuient les campagnes, ce qui présage une nette baisse des produits à l'exportation, tels que le cacao ou l'huile de palme. Sur le terrain, notre correspondant Zakaria Camara est allé interroger ses compatriotes. On suit son reportage.
Je vais à Dakar pour prendre mes marchandises, mes Depuis le 6, je devais partir. Les habits de fête que je voulais aller prendre pour les hommes, cette fois-ci-là, je n'ai rien gagné.
Assise devant sa boutique presque vide, Binta ne souhaite qu'une chose, la rouverture des frontières.
Qu'ils prennent leurs précautions, les gens qui voyagent, pour voir s'ils ne sont pas malades, ceux qui sont malades, les laisser sortir, aller prendre leurs marchandises, venir vendre. Ça va nous faire plaisir, comme, franchement. Tout est fini. Et cela, stand-by.
D'autres Guinéens appellent vivement la reprise du trafic entre la Guinée et ses voisins. Mamadou est chauffeur de taxi.
Avant, quand le chauffeur somme, c'est s'il gagne une voiture à conduire, il gagne quelque chose pour que le madame prépare à la maison. Actuellement, nous, les propriétaires de la voiture, on ne gagne pas même à manger. Vous voyez, deux chauffeurs ou trois chauffeurs, ils partagent un demi-franc de bouillie. C'est pas bon pour nous.
Les Guinéens ne sont pas les seuls à souffrir de la situation. Aké Sierra-Léonais gère une boutique de chaussures. Cela fait plusieurs mois qu'il n'a pas voyagé.
Toutes choses que je vends ici, aller là, sauf c'est la marchandise que j'ai gagné ici, la Guinée. Avant, j'ai fait commande Canada, États-Unis, Sierra Leone, la moment là, où je fais pas, où je rentre pas marchandise. À cause de la fête de.
À quelques semaines de la Tabaski, une fête musulmane, c'est l'inquiétude chez de nombreux commerçants à cause de la fermeture des frontières. Conakry, Zakaria Kamara, pour La Voix de l'Amérique.
Camille Grosdidier, vous suivez le magazine hebdomadaire de l'économie de La Voix de l'Amérique. Côte d'Ivoire est bien à l'occasion d'une conférence de presse à l'issue de sa visite d'État à Daoukro, à l'intérieur du pays, le président ivoirien Alassane Ouattara a évoqué la santé économique de son pays. On écoute un compte-rendu de notre correspondant à Abidjan, Germaine Dri.
Le chef de l'État a animé une conférence de presse à l'issue de sa visite d'État qu'il a effectuée à Daoukro à l'intérieur du pays. Au cours de cet échange avec la presse, Alassane Ouattara a fait le tour d'horizon des sujets qui alimentent les débats dans le pays et fait un éclairage sur la santé économique de la Côte d'Ivoire. Parlant de la croissance, le président de la République a situé les journalistes et les participants à cette conférence de presse.
La croissance de l'économie, elle est toujours très bonne. Je pense aux environs de 10% en 2012 et un peu plus de 9%, je dirais moins de 10%, mais c'est 9,8, c'est presque 10%, et un peu plus de 9% en 2013, et je pense que nous serons dans les mêmes eaux en 2014. Bien évidemment, nous sommes préoccupés par la question du virus Ebola et des difficultés des pays voisins qui sont également des partenaires commerciaux et économiques. Quel sera l'impact de la fièvre Ebola dans les pays voisins sur l'économie ivoirienne, je ne saurais vous le dire aujourd'hui, mais nous travaillons à voir nos estimations et à nous assurer que nous maintenons un fort taux de croissance au cours des prochaines années. En réalité, cette croissance continuera d'être forte parce que les investissements sont à un niveau élevé par rapport au produit intérieur brut, parce que ces investissements sont financés non seulement par l'extérieur, mais par l'épargne intérieure. En deuxième lieu, la consommation est boostée par les politiques du gouvernement, avec bien sûr le fait que nous avons débloqué les salaires en partie, ce qui augmente la consommation, le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Nous avons également décidé d'augmenter le SMIC, quasiment le doubler, ce qui aide dans le secteur privé. Nous avons également augmenté les prix aux producteurs pour quasiment tous les produits agricoles, café, cacao. Donc quand vous êtes dans une situation où vous avez une augmentation des investissements, une augmentation de la consommation, et bien évidemment, ceci conduit à une augmentation des exportations. Et donc nous sommes confiants que le taux de croissance élevé continuera en Côte d'Ivoire sur, pas seulement en 2014, mais sur les années à venir, et que nous serons conformes à nos prévisions. Dès maintenant, nous avons commencé à travailler sur le programme 2016-2020, parce qu'il faut bien évidemment assurer cette croissance pour aboutir à l'émergence en 2020. Nous sommes confiants de l'aboutissement donc de nos efforts et surtout que tout cela profite aux Ivoiriens, améliore le quotidien de nos concitoyens en matière de pouvoir d'achat, que ce soit les fonctionnaires, les paysans, le secteur privé, que nous puissions affiner avant la fin de l'année les mesures pour réduire le coût de la vie et enfin faire en sorte que nous puissions nous attaquer de manière forte à la question du chômage des jeunes.
S'agissant de l'eurobond lancé en juillet dernier et qui a connu un succès, Alassane Ouattara a indiqué que le pays peut rééditer l'exploit.
L'eurobond, les 750 millions qui ont été empruntés, le taux est assez faible, 5,625%. C'est seulement un demi-point au-dessus du taux qu'a obtenu le Portugal ces derniers mois. Il est évident que nous avons de la marge. Tout dépendra des propositions. Le Premier ministre, qui est ministre de l'économie, des finances et du budget, en matière de trésorerie, s'il estime que la trésorerie demande un nouvel appel au marché extérieur, nous le ferons, parce que nous avons la capacité de le faire. Les notations de Moody's et Fitch nous permettent d'aller encore sur les marchés avant si nous voulons emprunter plus, mais tout cela dépend de la nécessité d'emprunter ou pas. Mais aussi, j'encourage à cet égard les banques commerciales, les banques nationales, les banques commerciales installées en Côte d'Ivoire, de faire un effort sur leurs taux, pas seulement pour le gouvernement, mais pour les entreprises et le particulier. Je vais insister sur la nécessité de baisser les taux pour aider les petites et moyennes entreprises et accélérer donc le crédit pour les PME et pour les entreprises nationales. Donc, nous avons la marge. Le taux d'endettement est faible, moins de 40%. Nous avons un taux de déficit qui est faible, à peu près 2%, un taux d'inflation qui est à 1,5%. Donc, c'est vraiment la Côte d'Ivoire a la capacité d'emprunter plus, mais nous veillons aussi à maintenir un taux d'endettement modéré qui ne doit pas atteindre 50% sur les années à venir.
Germain Dri, Abidjan, La Voix de l'Amérique.
Ce magazine de l'économie vous est offert par La Voix de l'Amérique, au micro Camille Gros-Didier. En République centrafricaine, l'embargo sur l'exportation du diamant est en vigueur depuis 2013 dans le cadre du processus dit de Kimberley, un mécanisme international qui vise à contrôler les diamants des zones de guerre qui alimentent les conflits et violations des droits humains. Dans une interview exclusive accordée à Bagassi Koura, l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique en Centrafrique, le ministre centrafricain des Mines, Joseph Agbo, demande l'allègement, voire la levée de l'embargo sur l'exportation du diamant centrafricain. Je laisse la parole à Bagassi Koura.
La RCA a été suspendue en mai 2013 du processus de Kimberley, un mécanisme mis en place pour contrôler le diamant des zones de guerre. Joseph Agbo est le ministre des Mines de la RCA.
On comprend le mobile qui, à l'époque, avait présidé à cet embargo sur l'exportation de nos diamants. Seulement, nous disons aujourd'hui que loin de nuire à ceux qui sont venus perturber l'exportation de nos diamants, cet embargo a vraiment eu des effets très, très, très pervers.
Le ministre des Mines explique qu'en temps normal, c'est un secteur qui représente à peu près 20% des recettes du budget de l'État et 51% des recettes à l'exportation du pays. Selon Joseph Agbo, la crise sociopolitique que traverse la République centrafricaine depuis 2 ans a énormément perturbé le secteur des mines.
Puisque les bureaux d'achat n'exportent plus, les collecteurs qui achètent ces produits, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils s'investissent dans la fraude. Et donc, la suspension du processus a eu pour effet de drainer le plus gros lot de nos collecteurs vers la fraude.
Une situation facilitée par le fait que sur le terrain, les groupes armés, essentiellement les Antibalaka et les Seleka, se sont emparés des mines du pays qu'ils exploitent. Les produits sont exportés vers le marché international à travers les pays voisins, comme l'explique Vianney Victorien Kouyadangpa, un exécuteur évaluateur en diamants et or.
L'État est en train de perdre beaucoup d'argent avec des trafiquants qui sortent illicitement avec des diamants qui sont exploités dans ces zones minières, qui sortent par le Cameroun et par le Tchad, alors que pour un régime de transition, on a besoin des entrées dans le trésor public.
Pour le ministre des Mines, les conséquences de l'embargo sur le fonctionnement du gouvernement sont énormes.
Nous, en tant que ministère des Mines aujourd'hui, nous sommes condamnés à l'inertie progressivement parce que nous, on tournait à partir d'une petite subvention qui nous parvenait des recettes d'exportation du diamant. Dans la mesure où ces recettes-là sont bloquées, donc progressivement, le ministère des Mines va être condamné à l'inertie. On n'aura plus demain les moyens de notre intervention au vieux secteur. Voilà, c'est tout ça là qui crée une situation de sinistre et les populations en souffrent énormément.
Le gouvernement centrafricain espère que le déploiement le 15 septembre dernier des casques bleus des Nations Unies va permettre la reprise en main des mines de Bangui. Bagassi Koura pour la Voix de l'Amérique.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du magazine hebdomadaire de l'économie. Une grande partie des Burkinabés sont très friands de chenilles de karité, un mets difficile à se procurer en raison de la saisonnalité du produit. C'est ce qui a incité la start-up FasoPro à lancer sur le marché ce mardi le Tumu Delis, son premier produit à base de chitumu, comme on appelle les chenilles de karité en Dioula. Ces chenilles seront maintenant disponibles tout au long de l'année dans les épiceries, les alimentations et les commerces de Ouagadougou, la capitale, de Bobo-Dioulasso et de Banfora. Conditionnées dans des sachets de 500 g et de 1 kg, ces chenilles fraîches pourront être conservées à température ambiante pendant 18 mois, explique Kaituo Yen, l'ingénieur à l'origine de l'entreprise, dans une interview avec La Voix de l'Amérique. On l'écoute.
Les produits sont déjà vendus dans une dizaine d'alimentations de la ville de Ouaga. Et nous continuons en fait la démarche pour augmenter le nombre de distributeurs, aussi bien à Ouaga qu'à Bobo. Maintenant, dans cette optique, justement, nous avons contacté la société Total là, pour que en fait, les produits soient disponibles dans les boutiques des stations-service Total à partir du 1er octobre. Dans toutes les stations-service de Ouaga, Bobo, Oudougou et Oyouya.
Où sont cultivés ces chitumu?
En fait, elles sont collectées dans la nature, à Bobo-Dioulasso. Elles sont collectées dans une ferme, environ 40 km de Bobo. Et après, elles sont bouillies et transportées à Ouaga pour être conditionnées. Donc, en amont, il y a eu en fait une formation qui a été dispensée à des associations de femmes pour qu'en fait elles puissent collecter des chenilles de bonne qualité et surtout aussi collecter de façon responsable pour pouvoir assurer la pérennité de l'espèce.
Est-ce que les chenilles sont reproduites artificiellement dans une ferme ou est-ce qu'elles proviennent toutes de la nature?
Elles proviennent pour l'instant toutes de la nature. Et nous avons justement inscrit dans notre programme de recherche et développement un volet sur la recherche, sur l'élevage, à la mise en place d'un système qui va nous permettre d'élever de façon artificielle les chenilles un jour. Et pour l'instant, nous sommes qu'au stade d'essai, d'expérimentation.
Donc, elles sont récoltées dans la nature, puis elles sont préparées, elles sont mises dans des sachets et ces sachets peuvent se conserver sur les étagères et rester frais pendant des semaines, voire quelques mois.
Oui, justement, elles sont conditionnées de sorte à rester frais pendant au moins 18 mois.
Quelle a été la réaction des consommateurs jusqu'à présent à votre produit?
Franchement, les consommateurs trouvent le produit très super. Ils n'arrivent pas à croire que ce sont des produits qui sont entièrement conditionnés au Burkina. Tellement c'est attrayant et c'est bien fait, tellement il y a de la rigueur dans le travail. Maintenant, la seule reproche négative que quelques clients aussi nous font, c'est que, en fait, pour l'instant, le produit reste cher par rapport à ce qu'on trouve sur le marché. Mais ça fait normal parce que, en fait, bientôt, on n'aura plus de chenilles sur le marché. Les prix vont augmenter. Et à partir de novembre, par exemple, on aura sur le marché des prix qui sont même plus chers que les prix que nous nous proposons actuellement. Et vu que nous nous proposons un prix stable toute l'année, pour l'instant, ils ne comprennent pas cette logique-là. Ils trouvent que le produit est un peu cher par rapport à ce qu'on trouve sur le marché.
Monsieur Kaituo Yen, l'ingénieur à l'origine de l'entreprise FasoPro, il parlait de la mise en vente de Tumu Delis au Burkina Faso. Ici Washington, Camille Grodidi avec vous. Je vous accompagne pour cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie. Dans son rapport 2014 sur le développement dans le monde, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CNUSED, note que le programme de développement pour l'après 2015 ne pourra être mené à bien que si l'on dispose des moyens nécessaires et que les décideurs bénéficient d'une plus grande latitude. La CNUSED met en relief des mesures qui pourraient contribuer à une croissance soutenue du revenu au plein emploi, à la réduction de la pauvreté et à d'autres résultats socialement souhaitables. Pour plus de précisions, on écoute Alfredo Calcagno, chef du service des politiques macroéconomiques et des politiques de développement à la CNUSED.
Avant la crise, il y avait un cadre externe plus dynamique, où il y avait des marchés, en particulier dans les pays développés, qui étaient plus dynamiques, et les prix des matières premières qui montaient. Donc, c'était un cadre plus favorable pour les pays en voie de développement qui n'existe plus. Il faut que les pays en développement s'adaptent à cette nouvelle situation où il n'y a plus vraiment des marchés qui pouvaient acheter beaucoup de produits, non, en particulier les États-Unis avec un déficit qui croissait, mais apparemment tout le monde était content, mais ça n'a pas été soutenable. Donc il faut pouvoir obtenir les buts du développement, avancer dans des ambitions assez importantes dans les buts du développement après 2015, dans un cadre plus difficile. Et pour ça, il faut alors qu'il y ait des politiques proactives de croissance et de changement structurel. Et ça, il n'y a que les gouvernements qui peuvent le faire, mais il faut qu'ils puissent le faire.
Par ailleurs, la CNUSED pense que les négociations commercial devrait se recentrer sur des accords multilatéraux.
Les deux choses sont reliées. Pourquoi les accords multilatéraux ? Parce qu'ils sont plus balancés, ils tiennent mieux compte des intérêts des pays en voie de développement, alors que beaucoup de traités bilatéraux restreignent les marges de politique. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par marge de manœuvre, marge d'action ? Ben, c'est pouvoir, par exemple, favoriser certains secteurs productifs, obtenir une meilleure technologie, demander aux entreprises de développer l'offre locale, non, et pas d'importer tous les intrants, de capaciter les travailleurs. Et dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, déjà il y a pas mal d'instruments de politique qui sont plus difficiles à appliquer qu'avant, mais qui restent possibles. Par contre, dans des traités bilatéraux, surtout des traités Nord-Sud, les gouvernements voient leur marge d'action encore plus restreinte parce qu'il y a comme plus de latitude pour les entreprises étrangères de faire ce qu'elles veulent et pas ce dont a besoin le pays, parce qu'on ne peut plus contrôler les capitaux spéculatifs. Et il y a donc des limites qui sont plus importantes et qu'on n'a pas encore dans le cadre multilatéral. Donc c'est pourquoi la CNUSED, qui a toujours défendu le multilatéralisme, dit aux pays en voie de développement, restez dans le multilatéralisme, n'essayez pas de le remplacer par une multitude de traités bilatéraux où vous allez perdre votre marge de manœuvre.
Pour développer l'offre locale, comme le suggère la CNUSED, il faudrait, notamment dans les pays tributaires des produits de base, accélérer le processus d'industrialisation. Parce que le gros problème, c'est toujours que bon, les produits partent à l'exportation, mais localement, ça ne présente guère de bénéfices.
Voilà, il y a là plusieurs questions. Une, c'est est-ce que les pays peuvent encore compter sur leur production, leurs exportations des produits de base, non ? Est-ce que les pays... Et la réponse est oui, parce qu'on a encore une demande assez forte, donc on ne prévoit pas une forte baisse des prix. Non, il y a parfois, on parle d'un super cycle où les prix ont monté jusqu'en 2007, ils ont encore monté en 2011, et maintenant ça va redescendre. Nous, on ne pense pas qu'il y aura un effondrement des prix parce qu'il y a toujours la Chine, l'Inde et d'autres pays qui continuent à acheter et la demande reste forte. Donc, les pays qui exportent des matières premières, il faut qu'ils profitent des prix qui restent historiquement assez bons pour transformer leurs économies. C'est une occasion. Ça ne va pas durer nécessairement toujours.
On écoutait M. Alfredo Calcagno, chef du service des politiques macroéconomiques et des politiques de développement à la CNUSED. Il était joint à Genève. Voilà, ainsi s'achève cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix d'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier, qui vous remercie de l'avoir suivi.